bonsoir et bienvenue dans cette émission. La situation sécuritaire est de plus en plus préoccupante dans la partie orientale de la RDC. Depuis le début de la semaine en cours, 28 civils ont été tués en Ituri et dans le Nord Kivu. Ces tueries sont attribuées aux rebelles ougandais des ZDF. Ces derniers ont massacré dimanche dernier 14 personnes dans la localité de Ndalia, territoire du Rumu, en Ituri. Ces rebelles ougandais ont aussi attaqué le secteur de Rwenzori dans les territoires de Beni, au Nord Kivu. Bilan, 14 civils tués, dont 10 dans les groupements de Malembo lundi et 4 à Oicha dans la nuit de mardi à mercredi. Comment expliquer cette recrudescence des massacres des civils? C'est le débat de ce soir. Et nous recevons dans cette émission Maître Lando Mafuta, il est conseiller du mécanisme national de suivi à la cellule thématique sur la consolidation de l'autorité de l'État, en particulier à l'est de la RDC. Il est le point focal du mécanisme national de suivi en Ituri. Bonsoir Maître Lando Mafuta.
Bonsoir, monsieur le journaliste.
Grégoire Kiro Tchongo, il est député national élu de Beniville au Nord Kivu. Il est secrétaire général du parti politique RCD-KML. Bonsoir, Grégoire Kiro Tchongo.
Bonsoir, Guimaté. Bonsoir à tous les auditeurs de Radio Okapi.
Et Jackson Aousse Asingoto, il est député national élu du territoire d'Irumu en Ituri. Il est cadre du parti politique Ensemble pour la République. Bonsoir, Jackson Aousse Asingoto.
Bonsoir pour tous les Congolais.
Bienvenue à tous une fois de plus dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiookapi.net.
Nous l'avons dit dans le sommaire, en Ituri, 14 civils sont tués, une dizaine de personnes blessées et une église incendiée au cours d'une nouvelle attaque dimanche des rebelles EDF à Ndalia. C'est une localité située à environ 120 km au sud-ouest de Bunia, dans les territoires d'Irumu. Des sources locales rapportent que ces rebelles ont contourné les positions des FRDC proches de Ringeti, dans la province voisine du Nord Kivu, pour commettre ces crimes. Des organisations locales demandent au gouvernement de lancer une offensive contre ces groupes armés qui s'installent en Ituri. Ezekiel Mouzalia pour les détails.
C'est vers 10h locales qu'un groupe de rebelles ZDF a envahi la localité de Ndalia pendant que de nombreux habitants étaient à l'église et d'autres dans leur ménage. Ils se sont introduits dans une chapelle et ont abattu certains fidèles et d'autres habitants dans cette entité située sur la RN4. Les gens couraient dans tous les sens pour se sauver. C'est vers le soir que certains corps ont été ramassés après le retrait de ces rebelles grâce à l'intervention des FARDC. Le chef local précise que 12 personnes, dont 3 femmes, ont été tuées et une dizaine d'autres blessés et le bâtiment d'une église incendiée. Deux autres personnes parmi les blessés sont mortes dans une structure médicale à Eringeti au Nord Kivu où ils ont été transférés après l'attaque. Ces rebelles ont également pillé plusieurs biens de la population. La circulation a été suspendue pendant presque toute la journée. De nombreux véhicules de transport en commun et des marchandises se sont arrêtés dans les localités proches des zones de combat. Cette attaque a entraîné le déplacement massif de la population. Nous avions tenté de joindre le porte-parole des FARDC, mais en vain. Bounia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Merci à vous, Ezekiel Mouzalia. Au Nord Kivu, une nouvelle attaque attribuée aux rebelles EDF a fait 4 morts et 2 blessés dans la commune rurale de Oicha, chef-lieu du territoire de Beni. C'est dans la nuit des mardis à mercredi 17 février. Ce bilan jusque-là provisoire est avancé par la société civile locale. André Kitenge pour les détails.
C'est mardi vers 19h que ces présumés rebelles ADF ont fait incursion dans la commune rurale d'Oicha, précisément au quartier Mbimbi dans la cellule Majengo, une commune où la calmie s'est installée ces deux derniers mois. Selon le président de la société civile, les assaillants ont dans leur incursion exécuté par balles et armes blanches 4 civils dont 2 femmes et 2 hommes. Outre ces cas de mort, 2 cas de blessés sont signalés parmi la population civile. Un bilan encore provisoire indique le président de la société civile locale d'Oicha. Philippe Paloukou Bonané explique.
C'était hier à partir de 19h30, il y a eu incursion des EDF qui sont arrivés, ils sont venus du secteur de Benidonk et de Kitevia. J'ai traversé Kekelibo jusqu'à entrer dans la commune de Ouicha, dans le quartier Mbindi, c'est l'île Majengo. Et là, ils ont tué 4 personnes, dont des hommes et des femmes. Il y a aussi 2 blessés qui sont au niveau de l'hôpital général. Et après ça, ils sont rentrés.
Contacté, le porte-parole militaire du secteur opérationnel Sokola Ingrand Nord dit attendre le rapport militaire afin de donner la version des faits de l'armée. Pour le moment, affirment d'autres sources sur place, c'est un climat de psychose qui s'observe chez les habitants d'Ouicha. André Kitenge, Beni Radio Okapi.
Merci à vous, André Kitenge. Toujours à Beni, secteur de Rouenzori, dans la nuit de lundi. À mardi, 10 civils ont été tués et 2 maisons incendiées. Bilan d'une nouvelle attaque des présumés ADEF, une fois de plus. Maître Lando Mafuta, je rappelle que vous êtes conseiller du mécanisme national de suivi à la cellule thématique sous la consolidation de l'autorité de l'État, en particulier à l'est de la RDC. Vous êtes le point focal du mécanisme national de suivi à Ituri. Depuis octobre 2014 à ce jour, environ 7 ans depuis que les massacres se commettent à Beni, avec près de 5000 victimes selon la société civile du Nord Kivu. Nous l'avons rappelé, nous l'avons évoqué dans l'émission de la fois dernière. La situation ne change pas en dépit des déploiements des forces d'élite des FRDC, de la police nationale et de la MONUSCO. Et nous avons formulé 2 hypothèses, soit l'approche que nos forces armées utilisent n'est pas adaptée, n'est pas efficace, ou c'est une situation entretenue. Et les porte-parole des opérations Sokola 1, qui avaient participé à cette émission ces jours-là, avaient confirmé la 2e hypothèse, donc selon lui, c'est une situation entretenue. Est-ce que vous êtes de cet avis?
Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour la question. Je devais commencer par m'incliner devant la mémoire de ces innocents dont on arrache les vies comme ça, sans cause. En tout cas, c'est trop choquant, c'est très révoltant. Revenant sur la question que vous posez, je pense que je ne fais pas partie de l'armée, les stratégies militaires et quoi que ce soit, je ne saurais n'est-ce pas commenter par rapport à ce que le porte-parole de l'armée a dit, mais tellement je voulais dire ceci qu'il y a parfois une autre présentation de faits qu'on ne fait pas montrer devant le public, c'est que depuis les débuts des opérations des grandes envergures le 30 novembre 2019, lancées par la volonté du président de la République, plusieurs bastions des ADEF ont été récupérées par les FAVC. Nous citons par exemple les Mayangos qui a été rééquipé, qui constitue les greniers agricoles des habitants de Beni. Nous avons Medina qui était le quartier général des ADEF qui a été récupéré. Et nous avons dernièrement ici Kididiwe qui a aussi été récupéré. Nous pensons que lorsque les FARDC récupèrent ces bastions des ADEF, il y a un effort à pouvoir ne pas continuer à faire pour que finalement ces victoires conquises puissent être consolidées.
Monsieur Lando, vous avez souligné le fait qu'il y a une autre présentation qu'on ne montre pas au public. Vous avez rappelé, n'est-ce pas, ces plusieurs bastions des EDF qui avaient été reconquis par les FRDC. Quelle serait la valeur de la reconquête d'un bastion ou d'un quartier général des rebelles qui, pour commettre des exactions, qui, pour nuire, n'ont pas besoin nécessairement de ces bastions, n'ont pas besoin nécessairement de ces quartiers généraux, parce que les faits nous démontrent que, en dépit du fait que ces bastions ont été reconquis par les FRDC, ces rebelles continuent à commettre des exactions. Quelle est la valeur de la reconquête de ces bastions, si on doit continuer à tuer les populations tous les jours?
Merci beaucoup pour la question, mais je voulais déjà aussi préciser que aujourd'hui, la situation de ces ADEF fait que finalement, ces groupes-là sont divisés en plusieurs petits sous-groupes et qui se déplacent d'un millier à un autre. Mais je sais que le FRDC savent les situer plus généralement dans les Rouenzori, ok? Et c'est comme ça qu'il faut finalement entrer dans, n'est-ce pas, la stratégie militaire que je ne saurais, n'est-ce pas, malheureusement commenter ici. Mais c'est un groupe qui mène une guerre asymétrique, une guerre non conventionnelle. C'est un groupe qui multiplie des stratégies. Mais je sais qu'en France, les FARDC aussi également multiplient des stratégies pour contrer ces groupes-là. et les FARDC ne vont pas abandonner les populations qui tombent, mais seulement renforcent aussi les stratégies pour que finalement l'ennemi soit arrêté, soit rattrapé, pour que finalement qu'il ne continue plus avec ces massacres qui durent depuis très longtemps.
Maître Lando, 7 ans après les débuts, n'est-ce pas, des massacres par les EDF des populations à Beni, logiquement, on est supposé, donc les FARDC et l'État congolais sont supposés, n'est-ce pas, maîtriser les modes opératoires des EDF. On sait que quand ils sont acculés à un endroit donné, ils se replient dans des villages environnants pour s'en prendre à la population civile. Et pourquoi on n'est pas proactif? Pourquoi on semble chaque fois être surpris? Pourquoi on n'anticipe pas ces attaques? Vous avez dit que ces groupes sont divisés en plusieurs petits sous-groupes. Donc on sait comment ils opèrent, mais pourquoi on n'anticipe pas les différentes attaques de ces rebelles?
Oui, finalement, je pense que dans la stratégie de la guerre militaire, il y a aussi l'anticipation stratégique ou la veille stratégique. Je ne saurais vraiment pas, encore une fois, entrer dans la stratégie, parce qu'en ce moment dont on parlait, je crois que les FARDC ont déjà plusieurs stratégies en place qui vont déjà pilonner à partir d'un moment pour que finalement ces ennemis-là soient neutralisés. En tout cas, il y a des stratégies qui existent au sein des FARDC que je ne sais pas pouvoir malheureusement vous le dire. Mais tellement, nous, en tant que mécanisme national de suivi, nous encourageons les FARDC de pouvoir monter plusieurs autres stratégies pour que finalement, ils arrivent à bout de ces ennemis de la vie.
Oui, le chef de l'État de la RDC, Félix Tshisekedi, lorsqu'il a pris la présidence de l'Union africaine, a annoncé sa volonté d'imposer la paix dans toutes les zones de l'Afrique affectées par des conflits armés. Et si cette approche peut être efficace ailleurs, est-ce qu'elle est adaptée au contexte de la RDC quand on se rappelle que cela fait 7 ans que la force est utilisée contre ces rebelles sans que cela ne puisse les empêcher à assassiner, à tuer, à commettre des exactions sur les populations civiles?
Oui, nous pensons quand le chef de l'État dit ou met en lumière cette approche, ce qui sait là où, n'est-ce pas, la stratégie va amener pour que finalement cette approche là puisse réussir. Mais nous sommes l'État congolais, messieurs les journalistes. Nous ne pouvons pas nous incliner devant les caprices ou devant des stratégies montées par ces groupes. Ce groupe finira par être neutralisé. Ce groupe finira par quitter le sol congolais par rapport aux stratégies qui seront utilisées pour que finalement ce groupe puisse laisser l'État congolais. Mais il y a plusieurs autres stratégies qui sont mises en place. Je pense que comme les autres sont en étude, les autres sont sur le point de validation, je ne sais pas me permettre de pouvoir les dire. Et c'est plusieurs autres stratégies donc, dont j'invoque, ce sont des nouvelles stratégies qui s'ajoutent aux anciennes déjà existantes. Donc ça veut dire que de ce côté ici, on travaille aussi pour que finalement nous arrivons à contrer des stratégies de l'ennemi.
Et vous ne pouvez pas évoquer l'une de ces stratégies?
Non, je ne sais pas l'évoquer parce que je vous dis que généralement ce sont des stratégies qui sont les unes sous analyse, les autres sous le point d'être validées. Et vous savez que la circonstance actuelle est nous n'avons pas encore un gouvernement en place, donc il faudrait peut-être que le gouvernement arrive à adopter pour que finalement cette stratégie soit mise en place rapidement pour que nos amis puissent respirer la paix à l'aise.
Merci Grégoire Kiro Tshiongo, député national élu de Beniville au Nord Kivu. Vous êtes secrétaire général du parti politique RCD-KML. 28 civils sont tués dans des attaques presque simultanées dans des territoires différents par les EDF. Comment vous réagissez à cette information?
Ben, encore une fois, je présente d'abord mes condoléances à toute la population qui ne cesse de payer un lourd tribut au massacre depuis des années. Moi, je crois que la vérité, c'est que les agresseurs, les assaillants, les EDF, comme on les appelle, ils ont l'initiative, c'est ça la vérité. Ça veut dire qu'ils frappent où ils veulent et quand ils veulent. Ils font vraiment ce qu'ils veulent, ils se promènent comme dans du beurre. C'est ça la vérité, malheureusement. Et moi, je veux bien qu'on prenne leur bastion, Medina, Mayangos, etc. Mais bon, écoutez, à quoi sert-il de prendre des bastions si les massacres ne cessent pas et que ces gens-là, ils se répartissent en groupuscules qui sont encore capables de faire ce qu'ils veulent, où ils veulent. Parce que là, ils ont frappé pratiquement en 24 heures en secteur de Rwenzori, ils ont frappé à Oicha, ils ont frappé aussi à Ndalia dans l'Ituri. Ça veut dire qu'ils sont éparpillés partout. Donc si aujourd'hui, ils décident de frapper où ils veulent, ils le feront. Ça veut dire qu'il y a un déficit criant en termes de renseignements. Ça veut dire que notre armée n'est pas capable d'anticiper et ça c'est extrêmement dangereux parce que les services de renseignement militaires et civils, ils sont là justement pour permettre d'anticiper. Ils font pas bien leur travail. C'est malheureusement ce que je peux tirer comme conclusion à ce niveau.
Et donc on peut mettre en cause le travail des services de renseignement. Mais aussi la part des politiques dans tout ça. Hein. 28 civils sont tués et ça passe comme si il s'agissait d'un fait banal. À Kinshasa, vous avez des autorités, n'est-ce pas, qui ne disent rien, même pas un message pour exprimer une certaine compassion. On a l'impression que les impératifs politiques passent avant la vie des civils. C'est comme si ces impératifs politiques sont privilégiés, n'est-ce pas, au détriment de la vie de la population.
Il faut dire que cela est quand même déplorable, ça fait des années que ça dure. Il y a pratiquement un blackout sur la situation de massacres à Beni notamment et actuellement dans l'Ituri, dans les médias officiels. Personne n'en parle, c'est comme ça devient des faits divers et ça c'est très très dangereux. Du côté des politiques, il est surprenant par exemple que le Premier ministre qui n'est plus là, Ilunga Ilunkamba, il ne se soit jamais rendu sur place à l'Est de la République, tout son mandat durant. Et il est aussi déplorable que à chaque fois qu'il y a des massacres, en tout cas même pas un petit message de condoléance, et ça c'est vraiment déplorable. Nous sommes tout à fait d'accord que le chef de l'État actuel, il a montré sa bonne volonté, il a même été sur place, il a promis le retour de la paix, mais bon, il a justifié le fait que la paix ne soit pas revenue par le fait de la coalition avec, disons, FCCK, qui ne lui a pas permis d'agir comme il l'aurait souhaité. Maintenant que le système Kabila est en train d'être déboulonné, on est pratiquement à la fin du déboulonnage, il faudra que dans les jours à venir, en tout cas, il y ait une autre manière de faire les choses et de voir les choses. En tout cas, la première des choses, à mon avis, c'est que les autorités s'expriment au moins pour présenter ne serait-ce que des condoléances et pour promettre que dans un avenir proche, les choses pourront changer.
Nous sommes justement par rapport à cette nouvelle configuration politique, on est dans un contexte où des contacts sont en cours. Hein. Le numéro 2 d'Africom venait de séjourner ici à Kinshasa. Il y a eu des rencontres entre les autorités sécuritaires du Rwanda et de la RDC. Et il y a aussi cette volonté, vous l'avez rappelé, cette volonté affichée du chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi, de vouloir, n'est-ce pas, imposer la paix en Afrique partout où les conflits armés sont en train de sévir. Toutes ces démarches, à votre avis, peuvent aboutir à quoi?
Je crois que imposer la paix, c'est le leitmotiv du président Félix Tshisekedi comme nouveau président de l'Union africaine. Je crois qu'il pourra mettre à profit sa présence à la tête de l'Union africaine pour rencontrer tous ses pairs et prendre des stratégies de manière à ce que la paix soit imposée, à commencer par dans son propre pays, la RDC. Vous avez parlé de Africom qui veut concrétiser la nouvelle approche de la lutte contre le terrorisme à travers le continent africain, qui parle de la mise en commun des forces de manière à ce que les terroristes soient pourchassés pas par une seule armée, mais par plusieurs armées. Je crois que ça, c'est aussi une bonne chose, parce que en ce qui concerne les ADF, par exemple, originellement, c'est une armée, disons, c'était une rébellion ougandaise, et ça reste en principe une rébellion ougandaise, même si je suis, moi, personnellement, je suis persuadé que, à part ces djihadistes qui sont là, effectivement, dont on ne peut pas nier l'existence, il y a aussi d'autres groupes qui participent au massacre sous couvert des djihadistes de l'ADF. Donc, je crois que, quelque part, il faudra à un moment donné, comprendre que comme la question des ADF, c'est une question internationale, régionale, il faudra songer aussi à faire intervenir d'autres armées pour le retour de la paix. Je crois que c'est presque inévitable.
Après ces temps de luttes armées contre ces rebelles des ADF, une lutte qui n'a pas permis à la RDC de mettre hors d'état de nuire ces rebelles, et pourquoi on ne peut pas avoir le courage de reconnaître que nos stratégies n'ont pas fonctionné? Pourquoi ne pas envisager d'autres approches, hein? Vous avez suivi Maître Lando, qui nous a ici annoncé qu'il y a des stratégies, des nouvelles stratégies qui sont en cours d'examen. Pourquoi ne pas envisager d'autres approches?
Écoutez, la population n'a même pas besoin de savoir qu'est-ce que ça veut dire stratégie. La population a besoin de résultats. Le jour où les résultats seront là, tout le monde va constater que les stratégies mises en place ont été les bonnes. En tout cas, force est de constater que près de 7 ans après le début des massacres, rien n'a vraiment évolué. Ça veut dire que l'approche ou les différentes approches n'ont pas été les bonnes. Donc, il n'y a pas de honte à cela. Nous devons constater que notre pays, ses forces de sécurité n'ont pas été capables de ramener la paix. Et là, c'est aussi l'occasion de constater que la MONUSCO, malgré ses moyens énormes, n'a malheureusement pas contribué au retour de la paix. Donc, il faut passer à autre chose. Il n'y a pas de honte à cela, à dire que nous avons des difficultés, parce que notre armée est quand même minée par les mêmes maux qui rongent la société congolaise, c'est-à-dire, de manière globale, la corruption, l'affairisme, le népotisme, le tribalisme. Quand on parle de tribalisme, le népotisme, même dans l'armée, ça veut dire qu'il y a vraiment des problèmes. Et puis, il ne faut pas oublier que notre armée, c'est aussi un ensemble hétéroclite de plusieurs armées qui sont venues de différentes tendances, et dont on peut constater, par exemple, que certains éléments ne sont pas forcément loyaux à la République. Donc voilà, il y a tous ces problèmes qui minent notre armée, qui font que nous ne sommes pas capables, au moment où nous parlons, de faire face à la guerre et aux massacres qui sévissent notamment dans la région de Beni ainsi que dans l'Ituri. Donc, qu'est-ce qui peut nous empêcher de faire, par exemple, comme ce qui se fait en Afrique de l'Ouest, où Boko Haram sévit? C'est une rébellion nigériane, mais les Nigérians, ils se mettent d'accord avec d'autres pays comme le Tchad, comme le Cameroun, pour mutualiser les moyens de manière à ce qu'ils réduisent de façon sensible, comme c'est le cas actuellement, les capacités de Boko Haram. Donc nous aussi, je crois que la stratégie la meilleure actuellement, ça serait que nous prenions langue. Et là, je m'adresse, je l'ai déjà dit personnellement au chef de l'État, je lui ai déjà proposé qu'il prenne langue avec une ou deux, ou je ne sais pas combien d'armées, disons, avec ses pairs, pour que des armées étrangères viennent intervenir en appui aux FRDC qui, manifestement, sont en difficulté.
Merci. Jackson Aosea Simoto, député national élu du territoire d'Irumu en Ituri. Vous êtes cadre du parti politique Ensemble pour la République. Quelle est la situation actuellement à Ndalia, le village Ndalia, dans les territoires d'Irumu, où dimanche dernier, 14 civils avaient été massacrés par les EDF?
Je vous remercie pour votre invitation. Je profite de saluer mes co-débatteurs. On ne peut pas parler sur cette question sans pour autant présenter les condoléances à cette population qui est meurtrie, qui est presque abandonnée, nous pouvons dire. Nous présentons nos condoléances aux populations d'Ndalia, aux populations de Mbimbi, Oïka et aux populations de Rwenzori, n'est-ce pas, dans la partie des territoires de Beni. Messieurs les journalistes, la situation présente, c'est la désolation. L'agglomération d'Ndalia en particulier est composée par des déplacés de Nord-Kivu. Parce que vous savez, depuis 2014, l'état de Beni a perdu son sens, la population ne sait pas aller au champ, la population ne sait pas dormir dans leur maison. Et toute cette population s'est déversée du côté Ituri et très précisément dans cette région de Ndalia. Et tout de suite là, quand les attaques reviennent encore sur Ndalia, je vous informe qu'on attaque encore des déplacés. Ce sont des déplacés qui se déplacent. Okay. Tout de suite là, je vous présenterai une population qui vit les déplacements pendant 5 ans. Une population qui se déplace d'un village à un autre, d'une forêt à un autre. Ils sont déjà fatigués, messieurs les journalistes. Ils sont déjà fatigués et nous nous disons, il faut que ça s'arrête un jour. Ça doit s'arrêter. Et la responsabilité première revient, n'est-ce pas, aux autorités congolaises, aux autorités qui gèrent la sécurité au quotidien, n'est-ce pas? Ils doivent aider cette population de Nord Kivu et de l'Ituri à retrouver quand même la paix. Même la Première Guerre mondiale n'a pas duré comme ça. La Deuxième Guerre mondiale n'a pas duré comme ça. C'est quelle guerre chez nous? C'est quelle guerre qui a qu'un début, mais qui risque de ne pas connaître la paix?
C'est depuis février 2020 que les EDF avaient étendu, n'est-ce pas, leurs actions à la province de l'Ituri. Et la première attaque avait fait 34 morts, à l'époque on en avait même parlé. Et depuis lors, qu'est-ce qui avait été fait pour empêcher, n'est-ce pas, quelles sont les stratégies qui avaient été mises en place en Dalia, notamment parce que c'est le village qui est à la limite avec la province du Nord Kivu. Quelles sont les stratégies sécuritaires qui avaient été mises en place pour empêcher à ces EDF d'étendre leurs actions au territoire de l'Ituri?
Il ne faut pas être expert, il ne faut pas être savant pour dire que nos stratégies ont été déficitaires jusqu'à présent. Qu'est-ce que je vais vous dire? On a tué en 2019 et on tue encore aujourd'hui. C'est-à-dire rien n'a changé. La capacité de nuisance de l'ennemi n'a pas été réduite. C'est ce que nous constatons. Voyez-vous? Donc, Nalia, effectivement, comme vous le dites, Nalia, c'est le village limitrophe, n'est-ce pas, de la province de Nord Kivu. Donc, la capacité de nuisance de l'ennemi n'est pas encore réduite. Autant qu'il intervient à Beni, autant il intervient encore dans la province de l'Ituri. Donc l'ennemi, il est encore présent et capable, n'est-ce pas, d'imposer sa loi. Alors, c'est-à-dire nous, gouvernement congolais, nous, services congolais, services de sécurité au niveau de la RDC, le défi est encore entier. On n'a pas encore commencé la résolution de ce conflit. Parce que il ne se passe pas un seul jour sans qu'il y ait une personne tuée, soit au Nord Kivu, soit à Ituri, par le fait de la présence ou de l'activisme des EDF. C'est bien bon de parler que nous, on a pris Medina, on a pris, n'est-ce pas moi, tel autre bastion, mais la prise de ces bastions nous rapporte quoi à terme de paix? Nous rapporte quoi? Ça rapporte plus le problème. Les caractéristiques communes, n'est-ce pas, des dernières attaques. Quand on attaque Ndali, quand on attaque Mbimbi, quand on attaque Rwenzori, ce sont les agglomérations qui ne sont pas dans la profondeur. C'est sur la route nationale numéro 4. Voyez-vous? Alors, moi je me dis, l'ennemi a laissé nos postes de sécurité dans les anciennes bastions. L'ennemi est venu maintenant habiter avec la population. Et donc, nous devons maintenant adapter nos stratégies, tout en sachant que l'ennemi n'est pas maintenant dans les bastions, mais plutôt l'ennemi a regagné les agglomérations proches de la route, de manière que nous soyons capables d'anticiper, comme vous venez de dire. Moi, je me souscris à 100% aux propositions que mon collègue venait de proposer, de la mise en place d'une force spéciale mixte.
Et parce que vous venez de dire que les assaillants, les rebelles sont maintenant dans la population, vous ne pensez pas qu'il y ait risque, si on ne fait pas attention, n'est-ce pas, vous ne pensez pas qu'il y ait risque des connexions entre ces rebelles des EDF et les groupes armés locaux qui sévissent dans cette partie de l'Ituri, situation qui risque d'être difficile à gérer?
C'est ça que nous ne souhaitons pas. Ituri en elle-même comme province, elle est déjà déchirée. Elle est déjà déchirée au moment où je vous parle. La population de Mungwalu, là nous sommes dans le territoire de Djougou. La population de Mungwalu, 3 millions de personnes en déplacement pour une seule province. Ah donc, une province avec plus de 8 groupes armés actifs, avec toutes ces factions. Ah donc, si à cela s'ajoutait encore que ça arrivait que les EDF se coalisaient avec les groupes armés locaux, ah donc, l'Ituri, et je dirais même Nord Kivu, vont disparaître sur la carte. Et par conséquent, nous allons prendre acte qu'on n'a pas une province appelée Ituri, on n'a pas une province appelée Nord Kivu. Moi, je m'inscris un peu en force à ce que l'expert a dit, que non, les stratégies se profinent, les stratégies s'adoptent, et nous attendons que le gouvernement soit mis en place. Mais le gouvernement, on venait de faire partie d'un gouvernement, il n'y a même pas un mois, le massacre à Nord Kivu, en Ituri, avec les EDF, ne date pas d'un mois. Donc cette question de stratégie, que je suis en train de parler, la population n'en a pas besoin. Nous voulons que les services de sécurité puissent s'en fumer. Mais vu la persistance des menaces, nous sommes en train de dire, apparemment, tout seul, si nous ne sommes pas capables, mais nous devons alors mettre à contribution d'autres personnes, étant donné qu'il y a un aspect international qui s'intègre, qui peut être analysable, n'est-ce pas, dans les conflits. C'est pour cette raison que nous plaidons maintenant pour la mise en place d'une force spéciale mixte, une force, n'est-ce pas, offensive, mixte, qui va pouvoir venir pour être plus offensive sur le terrain. Ça peut pouvoir nous aider.
Merci, Jackson Aoussé. Maître Lando Mafuta, vous allez réagir à cette réflexion de cet auditeur qui nous appelle depuis Mbandaka, parce qu'il y a eu beaucoup de réactions de la part des auditeurs qui donnent leur point de vue par rapport à ce sujet. Et vous allez réagir, n'est-ce pas, à cette réflexion qui vient de Mbandaka.
J'ignore Bompongo à partir de la ville de Mbandaka, province de l'Équateur. Ce qui est vrai, que nous avons un État inefficace et démissionnaire. Comment comprendre qu'une milice bien identifiée puisse continuer à endeuiller toute une nation sans que les autorités élaborent les tactiques qui peuvent mettre fin de cette inquiétion pernicieuse? Quand est-ce que l'armée congolaise se réveillera de sa léthargie pour que la population congolaise vive en paix longtemps troublée par les ADF. Je crois que le chef de l'État nous avait promis qu'il donnerait tout pour que nous vivions la paix. Mais hélas, cela n'était que du populisme dont les effets pervers se retournent contre ces administrés que nous sommes.
Maître Lando Mafuta.
Oui, merci beaucoup. Je voulais d'abord, avant de répondre à l'auditeur, mais glisser quelques mots par rapport à ce que l'honorable Gerson a dit. Je voulais préciser que je n'avais jamais dit qu'il y avait que ces seules stratégies. J'ai dit qu'il y a d'autres stratégies qui sont en cours d'analyse et d'autres qui sont en cours de validation. Donc je ne dis pas qu'il n'existe pas de stratégie. J'ai dit qu'il y a des stratégies et l'ennemi s'adapte avec... l'ennemi change de stratégie et les FARDC adaptent aussi leur stratégie par rapport aux problèmes posés sur le terrain. Ça, c'est de 1. Et de 2, la proposition de l'honorable Kiro, là déjà, l'État congolais a déjà commencé un travail de fond sur AFRICOM, mais aussi sur la brigade intégrée MONUSCO qui pourra, n'est-ce pas, dans les jours à venir, voire les jours, et enfin de pouvoir, n'est-ce pas, s'associer au FARDC pour donner solution à ces problèmes. Mais par rapport à l'auditeur de Mbandaka, il faudrait qu'ils comprennent que finalement ces groupes-là ne font pas une guerre conventionnelle avec l'État congolais. Ce sont des terroristes. Des terroristes, parfois, ils font des actions parfois isolées pour choquer l'opinion. Mais de toute façon, l'État congolais ne s'explique pas derrière ces actions. L'État congolais continue à les attaquer, les traquer et finalement à multiplier les stratégies pour mettre fin à leur aventure. Donc, l'État congolais continue, ou les FARDC en fait, en réalité, continue à travailler pour que finalement cette paix-là puisse revenir. Donc ce n'est pas que l'État est totalement démissionnaire de ce côté-là.
Kiro Tchongo, vous allez aussi réagir à cette réflexion de l'auditeur qui nous appelle depuis Kisangani.
Dili Fafou, depuis la ville de Kisangani. Cela s'explique par manque d'implication des autorités pour y rétablir la paix. Parce que la population est abandonnée à la merci de ces groupes armés. Comment comprendre qu'un groupe de moins de 1000 personnes neutralise toute une armée, tout un pays? Le plus important maintenant pour nos autorités, c'est le partage des postes ministériels et non la sécurité. Cela s'explique par le gros budget alloué pour les sessions extraordinaires, 10 fois que celui de l'armée.
Oui, honorable Kiro Tchongo.
Écoutez, dire que les autorités ne s'impliquent pas suffisamment, bon, c'est une situation qui dure depuis près de 7 ans. Moi, je suis tout à fait d'accord que les anciennes autorités n'ont pas fait correctement leur travail. C'est d'ailleurs l'une des raisons de leur déconfiture aux dernières élections. Donc, les populations ont effectivement l'impression d'être abandonnées parce que il faut dire que en ce qui concerne le Béni, par exemple, je parle de ce que je maîtrise, les exactions se commettent essentiellement dans ce qu'on appelle le triangle de la mort, c'est-à-dire un périmètre de 30-40 km². Il est anormal que un groupe dont on disait à l'époque du général Bauma qu'ils étaient en diminution de leur capacité à 85%. Donc il est anormal qu'un groupe comme ça, alors qu'on nous a toujours dit qu'il y a plus de 20 000 hommes sur le terrain, il est anormal que ce groupe-là continue à faire des exactions alors qu'il y a toute cette population de militaires sur place. C'est vraiment un échec particulier en ce qui concerne l'ancien régime. Maintenant, pour le président Félix Tshisekedi, il faut dire les choses comme elles sont. Il est entré en coalition avec le FCC, c'est-à-dire les anciens gestionnaires. Et au bout de 2 ans, il s'est rendu compte que les choses ne marchaient pas. Voilà pourquoi il a décidé de mettre fin à cette coalition. Et il a décidé de déboulonner tout le système, majorité Assemblée nationale, Sénat, etc., etc. Donc maintenant qu'il aura les mains libres, il faut dire que nous n'aurons plus, nous de l'Union sacrée et de la Nation, nous n'aurons plus d'excuses si nous ne sommes pas capables de ramener la paix à l'est de la République, essentiellement au Grand Nord Kivu, ainsi que à l'Ituri. Bon, pour ce qui est du budget de l'armée, il est effectivement très petit. L'armée fait face à un problème vraiment de moyens, mais ce n'est pas ça qui explique tout. Parce que je dois rappeler quand même à notre ami auditeur que j'ai fait partie d'une délégation de députés en 2019 qui s'était battue, qui avait vu toutes les autorités possibles, y compris le chef de l'État, pour que les moyens soient mis à la disposition de l'armée
et les moyens étaient sortis à la satisfaction de l'armée. C'était la première fois que moi j'entendais le ministre de la Défense ainsi que le chef d'état-major général dire pour une fois nous avons les moyens et nous vous promettons que dans les trois mois qui suivent, en tout cas nous en aurons fini avec cette nébuleuse terroriste. Donc c'est pas qu'une question de moyens, il y a effectivement une question de moyens, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi un problème d'organisation. Alors maintenant, comparer le budget, je parle de l'Assemblée nationale avec celui de l'armée, bon, je crois que ce n'est pas ici le lieu d'en parler, mais c'est vrai que il y a une loi de programmation qui devrait permettre aux forces armées d'avoir un peu plus de moyens, et c'est une loi qui devrait être votée incessamment au niveau de l'Assemblée nationale. Donc on vient vraiment que l'armée n'a pas suffisamment de moyens, qu'il faut absolument revoir cela, parce que on peut rien attendre d'une armée qui fait face à tous ces déficits en termes de moyens, même si à les rares fois que les moyens sortent, il faut dire qu'il y a aussi un problème, comme j'ai dit tantôt, un problème lié à la sociologie congolaise, c'est-à-dire des détournements, etc., etc.
Merci Jackson Haussé. Vous allez aussi réagir à cette réflexion qui vient de Béni au Nord Kivu.
Doubé, Mwenembopa, je vous appelle à partir de Béni au Nord Kivu. La situation de Béni est complexe car ni l'armée ni les politiques ne la maîtrisent pas. Ils y vont à tâtons. Cette situation est la suite de la traque sans stratégie entre les terroristes qui sont bien formés en guérilla et d'autre part l'affairisme des officiers qui ne veulent pas dire la réalité sur terrain car il semble qu'il y a à boire et à manger dans cette affaire.
Oui, Jackson a aussi votre réaction.
Oui, oui, à boire et à manger dans ses affaires, ça c'est l'expression de la fatigue. Tu vois, il appelle à partir de Béni, certainement. Ce sont les gens qui ont vu la chose commencer et qui s'impatientent de voir un jour la vie normale reprendre. Parce que quel jour à Béni, les gens vont commencer à aller au champ et rentrer en toute quiétude. Quel jour à Béni, les gens vont commencer à aller au marché pour rentrer tranquillement. Donc les gens sont impatients de voir le retour à la vie normal. C'est pour cette raison qu'ils les interpellent. C'est une interpellation. Quand ils disent que les services de sécurité ne maîtrisent rien et les politiques ne maîtrisent rien, c'est une sorte de nous interpeller, de dire que comment les gens peuvent continuer à mourir à partir du moment où nous avons une armée, à partir du moment où nous avons un gouvernement, à partir du moment où nous avons toutes les institutions du pays en marche. Donc c'est tout simplement une sorte d'interpellation que notre auditeur est en train de formuler.
Jackson Haussé Asungoto, il faut pacifier, il faut stabiliser l'est de la RDC. Qu'est-ce que vous proposez?
Les propositions sont simples et nous les disons toujours. Nous continuons à les dire. Le premier axe, c'est l'axe militaire. Parce que l'ennemi ne vient pas me réduire. Ce n'est pas ici une guerre d'idées. C'est une guerre qui est faite par les armes et ainsi de suite. Il faut en opposer aussi un moyen ou une réponse militaire. C'est-à-dire la réforme de notre sécurité s'avère aussi très importante. Parce que nous comprenons que de plus en plus, nous constatons que notre système sécuritaire n'est pas à la hauteur des menaces. Nous devons le réformer et nous croyons que d'ici la rentrée parlementaire, s'il faut renforcer nos arsenaux juridiques dans les domaines sécuritaires, nous allons le faire. Quand cela ne tient, nous renforçons cette proposition de dire la nécessité de la création d'une force mixte, spéciale et mixte, dans la région de Béni, dans la région de l'Ituri, pour essayer de faire taire les armes qui pillent et qui tuent inutilement la population, n'est-ce pas, dans cette zone. Quand cela ne tient aussi, il y a la dynamique de la sensibilisation. Nous devons continuer à sensibiliser. Et je termine en disant dans les propositions, on peut aussi résoudre la guerre par le développement. Parce que pour ce qui concerne les naissances des groupes armés, les Maï-Maï, les Codeco, et ainsi de suite, c'est aussi dit aux grognes sociales. La partie Béni, la partie Ituri, là, dans notre pays, ne bénéficie pas des grands investissements. Il va falloir que nous puissions aussi travailler sur l'aspect investissement, de manière que le développement puisse nous permettre aussi d'aller dans le sens de restaurer la paix.
Maître Lando Mafuta, qu'est-ce que vous proposez pour pacifier l'est de la RDC, pour sécuriser de façon durable les populations habitants, n'est-ce pas, cette partie du pays?
Merci beaucoup. Très rapidement, nous avons salué les messages du tout nouveau Premier ministre, lequel dans son premier message place la question sécuritaire en bonne place. Saluons les honorables députés, les législateurs, qui placent également la loi sur la programmation militaire en bonne place pour, n'est-ce pas, donner assez de moyens dans notre armée. Et nous disons que cette loi sur la programmation militaire est l'une des réformes que le mécanisme national de suivi a toujours demandé. Nous saluons également l'approche de l'honorable Kim Lukiro qui parle de l'Africom, mais tout en rappelant que déjà nous avons connu une force étrangère qui est venue à Ituri il est toujours possible que nous puissions envisager également à cela. Mais nous demandons à la population de faire confiance à l'armée, parce que finalement, lorsque l'armée se bat contre ses ennemis de la vie, l'armée ne vient pas pour favoriser, parce que actuellement, ce sont des approches différentes. Alors, pour finir, je voulais dire que il y a un nouveau programme par rapport au développement des coins. Il y a un nouveau programme, la Banque mondiale, qui en pleine analyse, qui donne des solutions par rapport au financement des petites unités économiques au niveau communautaire. Je pense qu'avec des solutions pareilles, avec l'approche DDRC et stabilisation, je crois qu'on pourra trouver une solution efficace pour faire revenir la paix dans cette partie du pays. Je vous remercie.
Oui, M. Galando, on vous garde encore dans cette émission. À l'approche militaire, est-ce qu'on ne peut pas envisager d'ajouter l'approche politique, hein? Vous savez, il y a des groupes armés comme les talibans qui sont considérés comme des forces négatives par la communauté internationale, mais qui sont aujourd'hui, n'est-ce pas, les interlocuteurs des États-Unis, qui sont en train de négocier, n'est-ce pas, avec les États-Unis, et en Afrique de l'Ouest, avec les groupuscules terroristes qui sont là, et les États comme le gouvernement malien, comme le gouvernement burkinabé, envisagent aussi la possibilité, n'est-ce pas, de prendre langue avec ces groupuscules terroristes. Est-ce qu'on ne peut pas tenter la même chose ici chez nous, en RDC?
Je pense qu'en RDC, le président de la République a été clair qu'il fera tout pour faire régner la paix. Je pense que si l'option était là, si le seul moyen reste celui-là pour faire amener la paix, je ne vois pas comment est-ce que cette option ne pouvait pas être levée. Mais je pense que, pour l'heure, laissons les autorités travailler pour que finalement la paix revienne dans notre pays.
Et en conclusion, parce que nous sommes à la fin de l'émission.
Oui, en conclusion, en tout cas, c'est un message d'espoir que j'ai fait à la population de Beni, Ituri. Finalement, je pense que dans les jours qui suivent, lorsque tous ces programmes, lorsque toutes les stratégies seront mises en place, je pense que l'ennemi nous remplit d'existence dans ce coin de pays.
Merci, honorable Kiro Tchongo. Vos propositions pour pacifier la partie de l'Est du pays, afin de sécuriser les populations civiles qui y vivent?
Je crois que les autorités nationales devraient faire appel à une ou plusieurs forces étrangères pour épauler les FARDC qui manifestement sont en difficulté. Je crois aussi que, étant donné que les FARDC sont en difficulté, il faudrait songer à organiser la population. Il faudrait que les FARDC songent à organiser la population en comité d'autodéfense pour la prise en charge, avec une formation militaire sommaire, avec des techniques de renseignement, de manière à ce que, en attendant l'intervention des forces régulières, à chaque fois qu'il y a attaque, la population soit capable déjà de se prendre en charge. Je crois qu'il y a aussi un problème en termes de renseignement. Le renseignement, il a montré ses limites, il est vraiment déficitaire, et je crois que on doit mettre l'accent sur le renseignement communautaire, comme on dit. C'est-à-dire que la population doit être mise à contribution en termes de renseignement, parce qu'il est quand même anormal que tous ces petits groupes d'individus aient le loisir de sillonner. Bien sûr qu'il y a la forêt, mais bon, Il y a quand même des gens qui vont des fois au champ, parce que c'est pas partout qu'on ne va pas au champ. Donc il y a des gens qui les croisent et qui vont informer les autorités civiles et militaires. Mais comment expliquer qu'il n'y a jamais de réactivité? Donc moi je pense que les civils doivent être vraiment mis à contribution par rapport à cela.
Et en conclusion?
En conclusion, je crois que les nouvelles autorités, le chef de l'État, je lui fais vraiment confiance. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt le premier discours du Premier ministre, où il disait que les questions sécuritaires font partie, vraiment, disons, sont sa priorité. Et je crois que nous tous, là, qui avons adhéré massivement à l'Union sacrée de la Nation, c'est nous de l'Est, c'est essentiellement parce que on en avait ras-le-bol de cette affaire d'insécurité. Nous avons dit, en tout cas, nous allons vers quelqu'un qui nous promet la paix. Et je crois vraiment que la population, dans les mois à venir, pourra goûter aux fruits de la paix. Autrement, nous n'aurons aucune excuse.
Merci. Honorable Jackson Aoussé Asngoto, votre conclusion?
Ma conclusion est simple. Nous continuons à demander à la population d'espérer. Nous demandons à la population de rester mobilisée et surtout vigilante et de continuer à contribuer, à donner leur contribution au service de sécurité locale. Et s'il y a des informations, il faut toujours les partager en temps réel pour que ceci intervienne. Et nous attendons aussi l'avenir, n'est-ce pas, du gouvernement prochain, bien fermé vraiment. C'est un gouvernement qui n'aura pas la chance de discours. Si les autres travaillent sur base de discours, mais celui-ci n'aura pas la chance de travailler sur le discours, nous allons lui demander plus les actions que les discours. Et nous serons vraiment, nous serons un peu exigeants parce que les gens sont très fatigués et nous ne serons pas tolérés que les choses se tirent encore à la longueur.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à Polydore Basunga qui a été la technique. Merci à Kéline Kouté et Dona Madimba qui ont réalisé cette émission sous la supervision de Martin Sebou Jangwe, à la présentation Guy Massé. Merci et bon soutien au programme sur Radio Capi.